Livre du prophète Jérémie, chapitre 1er, versets 1 à 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkiahou, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Yehoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. Ce récit nous parle de l'appel de celui qui deviendra le prophète Jérémie. Nous savons très bien qu'entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament, il y a une différence. L'Ancien Testament, le prophète de l'Ancien Testament, lorsqu'il parlait, c'était oracle de l'Éternel et il n'y avait plus rien à dire. Tandis que celui du Nouveau Testament, je ne parle pas du ministère de prophète, mais je parle du don spirituel de prophétie, comme tous les dons spirituels, a vocation à être analysé et choisi. Et ici, donc, l'appel de Jérémie est clair, je t'appelle pour être prophète, je t'appelle pour me servir au milieu d'une génération compliquée. J'allais dire que Jérémie connaissait la maison, il connaissait le peuple, puisque le texte nous dit clairement qu'il est fils de sacrificateur. Il est appelé au ministère prophétique, mais il est également averti des difficultés qu'il rencontrerait. Et en effet, il va commencer sous le règne de Josias jusqu'à la captivité, et cela fait environ 41 ans. Puis, même pendant la captivité, il continuera à parler et à accompagner le peuple dans ses épreuves. Ça me fait du bien de voir des hommes qui ont été intègres comme Jérémie être emmenés au même titre que Daniel ou d'autres hommes dans des périodes difficiles avec le peuple. Parce que nous, qui vivons de manière intègre, nous qui vivons de manière droite, qui nous conformons fidèlement au principe de Dieu, on se dit bien souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive ça? Mon frère, ma sœur, rien du tout. Des Jérémie, des Daniel ont été emportés en exil, ont été déportés au même titre que le reste du peuple. Et nous, il nous arrive d'être tentés, nous arrive d'être éprouvés de manière bien particulière, tout simplement parce que nous vivons au milieu d'un peuple qui vit sous l'emprise du péché. Et cela, nous n'y pouvons rien. Et Jésus l'a annoncé dès la fin des temps. Il a vu bien des événements, Jérémie. Il a assisté au réveil spirituel du temps de Josias, puis à sa mort. Il a assisté au règne de Sédécias, roi auquel il aura parlé sans succès. Bref, il aura vu énormément de choses. C'est un homme de Dieu tout à fait remarquable. Et il ne faut jamais oublier que ce n'est pas parce que Jérémie a été appelé de manière claire. Ce n'est pas parce que Jérémie a été choisi dès le ventre de sa mère. Ce n'est pas parce que Jérémie a reçu l'assurance de la part de Dieu, du Dieu lui-même, de la bouche de Dieu. Ce n'est pas parce que Jérémie a été fortifié par Dieu que tout sera facile pour Jérémie. Facile autour de lui, mais également facile en lui. Le prophète Jérémie est l'un de ceux qui est le plus transparent. On connaît ses combats extérieurs, mais on connaît également ses découragements. On connaît ses crises, telles que je les ai qualifiées. C'est un mot qui est très à la mode. Vous le savez, je déteste surfer sur l'actualité pour mes prédications. Mais je me suis quand même renseigné, j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire. Il y a énormément de définitions, il y en a 7 pour le terme de crise. Et il y en a 2 qui m'ont particulièrement intéressé parce qu'elles correspondent, elles peuvent correspondre aux états d'âme que Jérémie a pu traverser, phase difficile traversée par un groupe social, donc ça peut être par une église, ou grave pénurie, insuffisance. Jérémie connaîtra des crises, malgré son appel, et je dirais même malgré les promesses de Dieu. Mais Dieu l'avait prévenu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jésus t'a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus t'a assuré de sa présence. Jésus t'a assuré de son aide. Jésus t'a assuré qu'il t'avait gravé dans ses mains. Jésus t'a assuré que aucune arme forgée contre toi ne t'atteindrait, mais qu'elle serait brisée. Jésus t'a assuré qu'il entendrait toujours tes prières. Mais souviens-toi que Jésus t'a également dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Et que de la même manière que le monde avait rejeté le maître, avait refusé le maître, il se peut que dans ta vie, à certains moments, eh bien toi aussi tu vives des choses semblables. Jérémie va connaître trois crises, trois types de crises dans son ministère. Et je me dis que ces trois types de crises, nous sommes tout à fait capables de les rencontrer. Je pense même que nous les rencontrerons tous à un moment ou à un autre et pas qu'une seule fois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en face de ces crises, Dieu va donner un remède, va mettre un remède en face. Et mon frère, ma sœur, peut-être traverses-tu une de ces crises, traverses-tu une de ces difficultés bien particulières. Sache que le remède qui a relevé le prophète sera tout à fait capable de te relever à ton tour et de te venir en aide. La première crise que Jérémie va traverser, c'est la crise identitaire. Waouh, c'est la psychologie. C'est au moment de son appel, on vient de le lire. Dieu lui demande quelque chose qui lui semble totalement au-dessus de ses forces. Il ne s'en sent absolument pas capable. C'est un jeune homme. Il se considère comme un enfant, comme un gamin. Et la tâche que Dieu lui demande, lui semble être infiniment au-delà de ses possibilités. Il lui semble être infiniment au-dessus de ses possibilités. Et pour nous, il ne faut jamais oublier que notre vocation première, c'est quoi ? C'est notre salut. Jésus n'est pas venu pour que nous le servions uniquement. Quoi ? Mais Jésus est venu pour nous sauver. Et nous ne pouvons le servir qu'à partir du moment où nous sommes sauvés. Ne l'oublions jamais. Et ensuite, comme la belle-mère de Pierre, on se lève et on le sert. Il y a un ordre logique aux choses. Et c'est le postulat de base, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Jésus est venu, Jésus nous appelle premièrement. La première fois que l'on entend la voix de Dieu, en règle générale, c'est pour nous dire « donne-moi ta vie ». C'est pour nous dire « offre-moi ta vie ». C'est pour nous dire « mon garçon, ma fille, ma jeune fille, jeune homme, jeune fille, tu es pécheur. Mais tu es un pécheur que je veux sauver par grâce, que je veux couvrir de ma grâce. » Et là, Jérémie se dit « mais c'est pas possible. Je pourrais jamais faire ça. » Il s'est converti, il a donné sa vie, ok. Mais ce dont tu m'appelles, ce à quoi tu m'appelles, ça ne correspond pas avec mon identité. Ça ne correspond pas avec ce que je suis. Ça ne correspond pas avec l'image que j'ai. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Ça ne correspond pas à ce que je désire. Il y a la voix de Dieu qui va se faire entendre. Et au verset 8, on voit que Dieu va faire en sorte que Jérémie soit reçu en disant « Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans les projets qui sont devant toi, si c'est Dieu qui les a mis sur ton cœur, sache une chose, c'est que si Dieu t'emmène, t'appelle, c'est que Dieu est avec toi. Dieu a été avec Abraham lorsqu'il a quitté son père, sa mère, pour aller dans le pays que Dieu lui a montré. Dieu l'a accompagné, Dieu a été fidèle. Dieu a toujours accompagné Moïse dans la conduite du peuple. Et même lorsque Moïse lui désobéit, en frappant le rocher une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle jaillit quand même. Dieu a toujours été avec Moïse. Il peut y avoir, et je ne parle pas simplement, je ne parle pas d'appel, je ne parle pas de ministère ou pas uniquement, mais je parle tout simplement parfois de projets que l'on peut avoir, mais même de projets de vie, de choses qui nous font un petit peu peur, de choses qui nous effraient parce qu'on ne les maîtrise pas, parce qu'on ne les gère pas, parce qu'elles sont tellement pleines d'inconnus et on se dit certainement je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Ce n'est pas le moment. Alors on procrastine et puis on repousse toujours. Dieu est avec toi. Cette démarche qu'on applique souvent au ministère don, elle est valable pour toutes les étapes de notre vie. Dieu est avec nous. Première fois que je me suis dit retrouver à la tête d'une entreprise, j'avais 30 bonhommes à gérer, j'avais 23 ans. Ils étaient tous plus vieux que moi. Et ils connaissaient tous le boulot sur le bout des doigts, moi je ne connaissais rien du tout. J'avais mes bouquins. Et j'avais peur. J'avais peur. Alors j'ai demandé sa grâce à Dieu. Et Dieu a été avec moi. Et Dieu a été avec moi. Comme il est avec tous ceux qui avancent les genoux tremblants, mais qui avancent quand même dans les projets qui sont les siens. Parce que Dieu n'a pas que des projets pour l'Église, mais Dieu en a des projets pour ta vie personnelle. Dieu a des projets pour toi. Alors on avance les genoux tremblants, mais on se souvient des paroles de l'apôtre Jacques. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu as peur, c'est très bien, continue d'avoir peur, mais avance. Tes genoux s'entrechoquent, les genoux de ton cœur s'entrechoquent, c'est très bien, mais avance quand même. Avance quand même, et la grâce de Dieu sera sur toi. Deuxième chose que l'on voit et que Dieu utilise pour venir au secours de Jérémie, c'est qu'il touche sa bouche. On aura le même principe dans le livre du prophète Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe a cette vision, etc., je fais partie d'un peuple dont les lèvres sont impures, et je suis un homme dont les lèvres sont impures, et là, Séraphin viendra, prendra un bout de charbon, et puis placera sur les lèvres. Tu n'as pas la capacité, Ésaïe ? Tes lèvres sont impures, ce n'est pas un problème pour moi, je les sanctifie. Et tu parleras de ma part, parce que être un prophète, c'est parler de la part d'eux. Dieu équipe. On a l'exemple des disciples. Jésus les a envoyés. Allez chasser les démons, allez guérir les malades en mon nom. Et les disciples, parce que Jésus les a envoyés, ils y sont allés, ils sont revenus un petit peu tout fous. Ça marche! C'est extraordinaire, ça marche! Même les démons nous sont soumis! Réjouissez-vous d'abord de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Hein. Mais mon frère, ma sœur, quand on s'engage avec Jésus, ça marche! Je t'assure, ça marche! Ça fonctionne parce qu'il est avec nous et il nous équipe. Il nous donne les capacités de cœur pour faire les choses. Il nous donne le courage pour faire les choses. Il façonne notre caractère afin que nous puissions rentrer dans ses plans. Ça marche! Ça fonctionne! Non pas parce que l'on est superbement spirituel, non pas parce qu'on fait de superbes prières, mais parce qu'on rentre dans la volonté de Dieu, parce que l'on obéit à notre Dieu. Ça marche! Il n'y a aucun souci! Chaque fois que l'on marche derrière Jésus, chaque fois que l'on avance fidèlement avec Jésus, eh bien, le résultat est là. Jérémie va parler de la part de Dieu. Et Dieu va le protéger, même au fond de sa citerne. Jérémie va se lever, il va être équipé. C'est Dieu qui va l'établir, c'est Dieu qui va le fortifier, on le voit notamment au verset 18. Pour conclure cette première partie, qui sera la plus courte. Peut-être la plus longue. Tes genoux s'entrechoquent. Mais Dieu a un projet de vie. Dieu a un projet pour toi. Alors vas-y. File. Il t'équipera. Il te donnera la capacité. À condition, bien sûr, que ce projet soit dans la volonté de Dieu. Hein ? À condition que ce projet soit conforme à la parole de Dieu, que ce ne soit pas un fantasme, que ce ne soit pas une vue de l'esprit, que ce ne soit pas quelque chose... Je ne parle même pas d'un acte de foi, je parle de quelque chose de posé dont on peut avoir peur, parce qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Mais si le Seigneur a mis un appel sur ton cœur, n'hésite pas, tu peux y aller aussi, ça fonctionne très bien. Deuxième crise, c'est la crise du désappointement. Les paroles d'avertissement sont très fortes. Dieu lui dit clairement, ils te feront la guerre. Je t'établis en ce jour, 1.18, Jérémie 1.18, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie savait qu'il allait se retrouver à peu près seul contre tous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu nous avertit, je l'ai dit en introduction, que parfois, effectivement, nos âmes peuvent être le prix d'un combat. Peut-être dans nos familles même, on peut nous faire la guerre à cause de notre foi. Mais dans notre cas de travail, dans notre milieu professionnel, dans le milieu scolaire, dans nos universités, dans nos collèges, dans nos écoles maternelles, ça commence très tôt. Priez pour les enfants de l'Église. Priez pour les enfants de l'Église. On peut nous faire la guerre. Mais la promesse, elle reste... Ils ne te vaincront pas. Il faut en être conscient afin de veiller et de prier. Les disciples, ayant oublié cela, se sont endormis alors que Jésus leur avait demandé de prier une heure avec lui. Non pas pour lui, mais avec lui. Il ne faut pas en être surpris. Ne sois pas surpris de cela. Je dirais que c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la marche chrétienne. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais la promesse de Dieu, elle demeure. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Puis il faut surtout compter sur l'assistance de Dieu. Compte pas sur tes propres forces, mais compte vraiment sur la fidélité de Dieu. Et Jérémie, il commence à travailler. Moi, je me mettrais bien à sa place. Je ne sais pas pourquoi. Il commence à travailler, il commence à avancer, il commence à parler de la part de l'Éternel. Et au bout d'un moment, il se dit, mais ça sert strictement à rien. Il a même poussé ce cri, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ma souffrance est continuelle. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ce qui fait le plus mal au prophète, ce ne sont pas les réflexions de ceux qui essaient de le tuer avec la langue. Mais ce qui blesse le plus le cœur du prophète, c'est le fait que, quelque part, il pense que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Un petit peu comme le psalmiste dans le psaume 77 au verset 10 qui dira « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Et parfois, dans nos vies chrétiennes, on peut réagir exactement comme Jérémie. Et j'ai réagi exactement comme Jérémie. De me dire « Mais... est-ce que mon Dieu a changé? Est-ce que mon Dieu m'a oublié? Est-ce que mon Dieu a tiré un trait sur moi? Où sont les promesses? Est-ce que je me suis trompé dans ce qu'il m'a assuré? Est-ce que je me suis trompé dans ce qu'il m'a dit? Je ne comprends plus ce qui se passe. Pourtant, je suis un bon serviteur de l'Éternel. Je prie, je jeûne, je me prive de chocolat, au moins une fois par jour. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour tenir le coup. Mon Dieu m'aurait-il oublié? J'ai mené le combat, je me suis accroché. Mon Dieu m'aurait-il oublié? Ou Dieu aurait-il changé? N'est-il pas celui qui... Peut-être est-il différent de celui qui est décrit dans sa parole? Peut-être est-il différent de ce que de la personne qui s'est révélée à moi? Il a peut-être vieilli. Il a peut-être pris des rides. L'arthrose empêche peut-être son bras de s'étendre. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. Et sa main, eh bien, elle s'étend encore aujourd'hui. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et comme dans beaucoup de cas, quand on souffre, nos paroles dépassent systématiquement notre pensée. Et en nous, tout se mélange, tout se brouille. Ne jugeons jamais sévèrement les paroles de ceux qui souffrent, ni même leurs actes. C'est extrêmement compliqué à faire. Mais discernons ce qui vient de la souffrance et de ce qui vient du cœur. Et Dieu, c'est une petite parenthèse, et Dieu, va s'adresser à Jérémie. Chapitre 15, verset 19, il dira « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Quatre points. Premier. Revenir à Dieu. Car la souffrance en a éloigné le prophète. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je souffre, plutôt que de me rapprocher de ma femme, j'ai tendance à rentrer dans ma grotte. Je deviens bougon. Je passe ma vie dans mon bureau. Et je ne sors de ma grotte qu'à partir du moment où je ne souffre plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Hein. Ça va chérie, t'es heureuse hein? Ça éloigne, la souffrance éloigne de ceux que l'on aime. Avec Dieu, quand on a ce genre de raisonnement, qui sont tellement humains, que Jérémie, homme de Dieu, les a eus. Donc, ce n'est pas du tout culpabilisant. Est-ce que la droite du Très-Haut est la même? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Il y a un phénomène, c'est qu'on s'éloigne de Dieu. C'est ce que, dans mes entretiens, des fois, je vous l'ai peut-être dit. Arrête de bouder. Arrête de bouder. Il faut revenir à Dieu. Là, on se dit, mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je suis resté fidèle, je suis resté le même. Oui, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu. Tu passes moins de temps, il y a moins d'intensité. C'est un petit peu comme l'église d'Éphèse qui, finalement, faisait les mêmes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et là, derrière, point, repens-toi. Reviens. Fais demi-tour. Reviens à ton premier amour. Premièrement, revenir à Dieu, mais ça ne suffit pas. Vous remarquez ? Si tu te rattaches à moi, revenir ne suffit pas. Faire des va-et-vient ne suffit pas. Mais il est nécessaire de s'attacher à Dieu. On connaît bien Jean 15, l'image du cep et du sarment, le sarment qui est attaché sur le cep. Rattache-toi à Dieu. Tu fais des allers-retours. Tu sais que tu dois revenir. Mais j'allais dire, mon frère, ma soeur, et beaucoup de pudeur, malgré ta souffrance, attache-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu. Tu as été attaché à Dieu. Tu as aimé Dieu. Et aujourd'hui, il y a comme une séparation. Rattache-toi à Dieu. Et la promesse, elle est derrière. Je te répondrai. Je te répondrai. C'est pas au retour, simplement. Mais c'est à l'attachement que la promesse sera accomplie. Pour s'attacher, pour se regreffer, il faut un peu de temps. Pourquoi c'est important de s'attacher ? Reprenons la parabole du cep et du sarment. Parce qu'à partir du moment où je m'attache, il y a la sève qui coule en moi. Il y a la force de Dieu qui coule en moi. Il y a l'énergie de Dieu qui coule en moi. Et qui me donne la foi nécessaire pour saisir ce que je dois saisir et ce qu'il veut me donner. Rattache-toi à Dieu. Troisième point. Sépare. On le connaît bien ce passage, je ne vais pas le disserter dessus. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Je vais le schématiser, pardonnez-moi, vous les puristes. Ne me faites pas de reproches, n'inondez pas ma boîte mail d'écrits divers et variés. Séparons de ce qui est de la terre et de ce qui est éternel. Séparons de ce qui vient de notre cœur et séparons-nous de ce que Dieu dit. Discernons-le, coupons-le. Dans la souffrance, on ne voit rien. on est complètement brouillé. Et Jérémie, ton cœur est brouillé. Tu ne sais plus ce qui vient de Dieu, tu ne sais plus ce qui vient des hommes. Rentre en toi-même, fais comme Asaph et va dans le tabernacle, dans les parvis de Dieu, et demande à Dieu ce qui revient de lui, demande à Dieu ce qui est de toi. Discerne ce qui est important et discerne ce qui ne l'est pas. Sépare les choses. Ton cœur est totalement brouillé. Sépare. Et quatrièmement, il dira à Jérémie, tiens bon contre l'opposition. C'est à eux de revenir à toi et ce n'est pas à toi de revenir à eux. Le chrétien est un bateau, une coquille de noix. Quelqu'un m'a dit, moi je préfère que tu me compares à un paquebot. Je suis d'accord. Mais le Titanic, il a coulé. Les canots de sauvetage, eux non. Soit nous sommes un paquebot ou alors nous sommes une coquille de noix. Qu'est-ce qui fait notre force ? C'est qu'on flotte. Et à partir du moment où il y a une brèche dans la coquille de noix de nos vies, l'eau rentre et on coule. Ce qui fera notre force, c'est de pouvoir flotter sur les eaux de ce monde, flotter sur les eaux de notre société, flotter sur les eaux de notre famille, sans nous en couper, sans devenir des marginaux spirituels, mais en sachant qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas rentrer en nous. Il y a certains domaines dans lesquels c'est à eux de venir et dans lesquels nous ne devons transiger sous aucun prétexte. Vous ne me lapidez pas ce matin ? Vous êtes de meilleure humeur que d'habitude. C'est à toi de tenir, c'est à eux de revenir, mais ce n'est pas à toi de faire du compromis. Jérémie, reprends ton bon sens. Arrête dans ta tête de te dire, mais si jamais je composais un petit peu, si jamais mon message était moins dur, si jamais je faisais quelques entorses à la morale, ça me faciliterait quand même beaucoup la vie. Si jamais je me taisais, et je vais me taire. Mais je ne peux pas me taire, dira Jérémie, c'était mon troisième point, mais c'est pas... je ne peux pas me taire. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Pas de compromis. C'est à eux de revenir. C'est pas à toi de bouger, Jérémie. C'est pas à toi de bouger. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors Jérémie, il va travailler dur. Il va écrire ses paroles, et le roi de l'époque va les déchirer. Enfin, plutôt, il va les faire écrire par son scribe, Baruch. Il va finir par une dans une citerne. Enfin bref, on passera sur la troisième partie. Sniff. Ce qui nous parle de tous les efforts que l'on peut déployer pour Dieu et qui ne sont pas payés. Mais nous n'oublions pas, et je ne vous dirai pas que nous ne sommes pas payés au résultat. Nous sommes payés à la fidélité que nous déployons pour servir notre Dieu. Et j'arriverai donc sur la conclusion. Premièrement, les crises sont inévitables dans nos vies. Et les crises seront inévitables dans ta vie chrétienne. Alors, veillons, prions, et ne soyons pas surpris lorsque, à un moment donné, il nous manque quelque chose ou nous sommes déstabilisés, bref, c'est normal. Ça fait partie de la normalité. Tu n'es pas exceptionnel, à condition que ces crises ne soient pas liées à un péché caché. Ok, non, c'est... Merci Jonathan. Deuxièmement, la véritable foi est de traverser les crises en étant vrai avec Dieu. J'aime beaucoup le prophète Jérémie, parce qu'il va être vrai, il va dire les choses clairement à Dieu. Mais tu es devenu une source trompeuse. Où sont tes promesses ? Il va vraiment épancher son cœur. Quand tu es en crise, ne te cache pas derrière des habits de pharisiens, pentecôtistes bien sûr. Mais va devant ton Dieu, dis-lui, je suis en crise de sainteté, viens m'aider. Je suis en crise de courage, viens renouveler mes forces. Je suis en crise d'huile, mon niveau d'huile est au minimum. Tout grippe en moi. J'ai besoin de toi, ne te cache pas derrière les apparences. Ne sois pas bien comme les pharisiens, mais deviens plutôt comme ce publicain qui disait, j'ai besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Tu as été pour moi une déception à telle période de ma vie, Seigneur, à tel moment, dans telle circonstance. Bien, pourquoi tu n'as pas été là ? Discute avec Dieu, vis ton cœur devant Dieu. Jérémie a eu les réponses. Tu auras les réponses. Troisième point, Jérémie a été emmené en exil. Notre fidélité n'est pas le gage d'un succès. Et à vue humaine, le ministère de Jérémie n'a servi à rien, puisque le peuple a été envoyé en exil. Pourtant, le message véhiculé par cet homme de Dieu nous est parvenu encore aujourd'hui. Et moi, m'a fait du bien. Quatrième point, la situation ne change pas, mais le cœur du prophète, oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est toute l'œuvre de Dieu, c'est toute l'œuvre du ministère du Saint-Esprit. C'est que le peuple est toujours aussi méchant, les difficultés sont toujours présentes, mais le prophète Jérémie, lui, il a changé à l'intérieur. Il a passé la crise, et ça va. Sa souffrance a été enlevée. C'est l'œuvre que Dieu fait. Cinquième point, c'est le dernier. Finalement, la vie de Jérémie nous montre que seule la communion avec Dieu est le remède pour surpasser les crises. Je n'ai pas d'autre recette à vous donner, je suis désolé. Mais quand tu es en crise, de quelque ordre soit-elle, c'est dans ta chambre que ça se passe. C'est au pied de ton lit que tu te tiendras en Dieu et ne te relève pas que tu ne l'aies réglé. Que le nom du Seigneur soit béni, que ces quelques enseignements puissent nous être profitables